Alors, j'ai la joie de présenter notre conférencier de ce matin, le père Étienne Michelin, qui est prêtre, professeur au Studium en théologie dogmatique. Il dirige le cycle de licence canonique au Studium et il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Concile Vatican II. Il est aussi directeur de la collection Sorgue. Il a accepté de faire la conférence de clôture, une tâche difficile, et nous l'en remercions d'avance. Alors je lui laisse la parole pour répondre à la question « Avons-nous encore besoin de la nature et de sa loi ?» La recherche de Vatican II.
Prions Dieu. Je remercie l'équipe organisatrice de ce colloque de la confiance qu'elle m'a fait. En me provoquant de nombreuses fois, j'ai fini par accepter de prendre la parole sur un sujet dont je ne suis pas du tout spécialiste. Nous allons procéder en quatre points, sans doute peut-être simplement en deux, suivant le temps que j'aurai consommé en cours de route. Je commence par un texte d'un dénommé Alphonse Gratry, qui est né à Lille le 30 mars 1805 et mort à Montreux le 7 février 1872, prêtre, philosophe français, restaurateur de l'oratoire en France. Il est cité par le professeur Guillaume Cuchet dans un article récent de la revue Transversalité, dans lequel Guillaume Cuchet s'interroge sur les diverses compréhensions de l'action de Dieu dans l'histoire. Et voici ce que dit ce Gratry, c'est dans La Logique, tome 2, 1966, pages 342 à 344. L'humanité est libre. Il n'y a pas d'article de foi sur ce point. La seule chose qu'en est dite le Christ, si toutefois j'entends bien ses paroles, est une question qu'il a posée sans la résoudre. Quand le Fils de l'homme reviendra, dit-il, pensez-vous qu'il trouvera encore de la foi sur la terre ? Il semble que, sur ce sujet, le doute est la vérité même. Or, je ne sais si vous sentez ceci comme je le sens, mais ce doute m'électrise. Le doute énerve d'ordinaire, ici, il vivifie et transporte. Oui, sur la face de notre terre, il se peut que, comme fruit de tant de larmes et de luttes, le bien l'emporte enfin, que le règne de Dieu arrive et que sa volonté soit faite en la terre comme au ciel. Il se peut que l'histoire finisse par une moisson. Et il se peut aussi que tout finisse par la stérilité, comme la vie du figuier maudit, et que, comme on voit des hommes épuisés de débauche et perdus de folie, mourir avant le temps, le monde aussi vienne à mourir avant le temps, épuisé de débauche et perdu de folie. Il se peut que la justice et la vérité soient vaincues et rentrent dans le sein de Dieu en maudissant la terre qui aura refusé de donner son fruit. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que l'humanité est libre et que l'homme finira comme il voudra. Je sais que vous, moi, chacun de nous, nous pouvons ajouter nos mouvements et notre poids au mouvement de décadence qui nous emporte vers l'abîme, ou bien, au nom de Dieu et en union avec le Christ, travailler à sauver le monde et à redresser en ce moment même la direction du siècle et de l'histoire, si elle est fausse. La question de l'action de Dieu dans l'histoire, de son intervention éventuelle, est une question qui préoccupe depuis toujours la personne humaine. Et même s'il est assez séduisant de considérer que pour que l'homme soit libre, il faut que Dieu s'éloigne de lui, il est aussi assez intéressant de considérer que lorsque l'homme sera rentré dans le sein de Dieu, il sera parfaitement libre et qu'à ce moment-là, la proximité avec Dieu sera source de sa liberté. Le premier point que je voudrais prendre, c'est des réflexions inaugurales. Avons-nous encore besoin de la nature et de ses lois ? J'ai remplacé sa loi par ses lois. Alors je vais directement au fait et je voudrais commenter brièvement ce titre. D'abord, la nature et sa loi. Interrogeons-nous sur ces deux termes, la nature et la loi. Il faut, me semble-t-il, éviter de confondre soigneusement, il faut éviter soigneusement de confondre les deux éléments. Il est évident que nous ne cessons pas de puiser dans la nature ce dont nous avons besoin pour vivre, ne serait-ce que l'air qu'en ce moment nous respirons. Sous cet aspect, nous désignons par nature ce qui n'est pas artificiel. D'autre part, grâce à cette fameuse loi de la gravitation universelle, nous pouvons tranquillement rester assis, sans avoir à nous cramponner à notre siège. C'est donc tout à fait clair, la nature et sa loi forment les conditions de possibilité d'une existence humaine en ses fondements. Cependant, une affirmation aussi massive qu'il faut de temps en temps se redire ne résout en rien la problématique à laquelle depuis toujours la personne humaine est confrontée. Car l'homme a bien raison de constater que par son intellect, il surpasse l'univers des choses. Qu'il soit soumis à toutes sortes de lois, y compris celles qui expriment la réalité de sa nature, c'est un fait. Que sa dignité soit d'y demeurer soumis, c'est une question. Ici prend son importance la formulation du titre « Avons-nous ?». Et tout d'abord le pluriel « Avons-nous ?». Je n'ai pas souhaité mettre la question au singulier « Ai-je ?». C'est un choix qui recouvre une prise de position précise. Il n'y a d'émergence d'un moi-je que dans la préexistence chronologique et logique et instantanée d'un nous. Non seulement cela, mais le moi-je ne peut s'éprouver comme tel que dans la mesure où il entre en relation avec un alter ego, dans un dialogue qui suppose en même temps un langage commun, ego, et une altérité insurmontable, alter, par ailleurs constitutif du sujet et de son être au monde corporel. Les relations entre le « je » et le « nous », entre la partie et le tout, entre la singularité personnelle individuelle et ses attentes, et les visées du groupe humain dans lequel elle évolue, ces relations sont de fait au centre de notre question. Cette question ne porte pas d'abord sur les besoins du sujet humain, individuel, mais sur ses besoins comme sujet social, historiquement responsable pour sa part de sa propre destinée, unique c'est vrai, mais non dissociable totalement du groupe humain avec lequel il est en continuelle interaction. Remarquons au passage que, bon, on y reviendra, avons-nous besoin ? Et maintenant, qu'entendons-nous par besoin ? Nous prendrons ce terme dans son sens fort, une nécessité intrinsèque à ce que nous sommes pour que nous puissions vivre réellement notre vie, confrontés à la réalité historique du mal, sous toutes ses formes, et de la mort. Notons que ce terme « besoin » occupe une place centrale dans l'organisation de la société, en particulier de consommation, dite de consommation, parce que la société de consommation est une expression de la société de production, et la société de production est une expression de la nécessité du travail. Qui de nous n'a pas été étonné, après avoir commandé un billet de train sur Internet, de se voir proposer, même sur d'autres titres, tout ce qui se peut acheter et consommer, avec argent et en payant beaucoup, dans la ville de destination? De fait, tout l'art est de nous faire insensiblement glisser de l'expérience d'une envie à l'assurance d'un besoin. Ceci est tout sauf un détail, car à y bien penser, si la nature et éventuellement ses lois sont pour nous nécessaires, le risque est grand de constater que cette nécessité peut poser des limites à ces multiples envies traversties en besoin et bientôt en droit. Avons-nous encore ? Cet adverbe nous plonge dans l'histoire. Encore aujourd'hui, encore pour longtemps, encore et toujours, même maintenant. Car la question que nous nous posons n'est pas anhistorique. La nature en soi, la loi en soi, la loi de nature en soi, l'homme en soi, non seulement ne nous intéresse pas, mais n'existe que dans l'esprit qui en élabore le concept ou l'idée, et par conséquent sont d'une fugacité radicale. Toutefois, l'histoire n'a pas le pouvoir de dissoudre dans son propre devenir les acteurs qui la font. Si l'on parle d'histoire, de changement, de révolution, c'est parce que quelque chose demeure permanent. Professer l'inverse, comme ose parfois le faire un ministre de l'Éducation nationale qui parle français à propos de la Révolution française, est un déni du réel qui augure fort mal des fruits d'un engagement politique. Pour aiguiser notre perception, je voudrais rappeler deux faits de l'actualité relativement récente, vous partager une expérience culinaire inattendue et faire une courte plongée dans le monde des semences agricoles. Premier fait, le boson. Voilà tout d'abord le boson, pronostiqué par M. Higgs. Son équipe et lui-même, ainsi que d'autres qui ont publié quelques heures après lui, je crois, ont perçu dans la nature, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas artificiel, fait de main d'homme, une organisation que tous les scientifiques s'accordent par ailleurs à reconnaître et dont beaucoup s'émerveillent. Dans la suite d'une longue chaîne de chercheurs, cette organisation a été exprimée sous la forme d'une théorie, d'un modèle mathématique. Le développement de celui-ci a conduit à postuler l'existence d'une particule, jusque-là totalement dissimulée, inconnue. Les moyens techniques considérables mis en œuvre avec le souci primordial de ne porter en rien atteinte à la réalité des faits, car telle est la première condition de l'expérience proprement scientifique, ont permis de valider le postulat et de le transformer en une certitude quasi. Higgs n'a pas fabriqué son boson, il l'a reconnu. À strictement parler, il l'a dévoilé, inventé. Les moyens techniques ont été déployés dans le but de ne pas contrecarrer la loi de la nature, mais de la mettre au jour. Nous pourrions développer la même réflexion autour de beaucoup de domaines, en particulier celui du graphène, un type particulier de cristallisation du carbone qui permet de faire des hypercondensateurs qui vont remplacer les batteries de vos téléphones portables et qui ont cet avantage énorme de se charger très vite et de se décharger à la demande. Un autre fait beaucoup plus triste, les poissons aux hormones. Voilà maintenant une autre situation dans une rivière. Raisonnablement éloignés de tout centre urbain, les pêcheurs ont constaté la raréfaction du poisson. Enquête faite, ils découvrent qu'il s'agit d'un problème de reproduction. Les mâles connaissent une baisse considérable de leur pouvoir fécondant. Poussant plus loin l'analyse, on découvre dans l'eau de la rivière une dose anormale d'hormones femelles de type œstrogène de synthèse. Pourtant, les eaux usées de la ville située en amont sont soigneusement traitées, comme il se doit dans un grand pays écologiquement responsable. Oui, mais pour que la population masculine de la ville puisse s'ébattre sans autre repère que son envie immédiate, la population féminine de la ville est massivement inondée d'hormones qui, après avoir été efficaces dans le corps qui les a ingérées, sont éliminées et viennent à la rencontre des poissons mâles, lesquels n'en demandent pas tant. Le scénario est ici différent. On constate que le milieu naturel des poissons est perturbé, on trouve cela très regrettable, on convoque les moyens techniques qui mettent au jour non pas un fait naturel, mais les conséquences d'une activité humaine, par ailleurs très lucrative, destinée à ce que je viens d'évoquer. Notons que cette activité humaine n'étant rien finalisée par une maladie ou un handicap, elle est finalisée par toute autre chose, une décision éthique. De plus, l'ingestion des poissons provoque, par les hommes, provoque une diminution conséquente de la fertilité masculine. Et la boucle est bouclée. Arrêtons-nous maintenant à un petit phénomène culinaire. Il y a 2 ans, j'étais invité chez des amis qui, connaissant mon addiction ostréicole, en avaient préparé. Les trouvant délicieuses, j'en demandais l'origine. « Elles viennent d'Australie », m'a-t-on répondu. Ça m'a fait un choc en pensant qu'entre l'Australie et l'Auvergne profonde, la trace carbone de ces mollusques était assez conséquente, quoique leur prix ne le manifeste à point. Par curiosité, j'ai tapé huître et Australie sur un moteur de recherche. J'ai alors appris ceci. Il y a en Australie deux types d'élevage d'huîtres. L'un classique, à l'eau claire, si l'on peut dire, et l'autre dans lequel ces coquillages sont nourris au Viagra. Je n'ai pas cherché à savoir de quel élevage provenait... Mais les huîtres ont-elles besoin d'une molécule chimique comme celle-là? En les nourrissant ainsi, respecte-t-on la nature, respecte-t-on sa loi? Enfin, un tout petit arrêt sur la question de la semence. Il faudrait évoquer la question des semences dites « Terminator », dont l'entreprise Monsanto a entrepris la commercialisation. Il s'agit de semences à fort rendement, mais qui, contrairement à la volonté divine, ne portent pas en elles-mêmes leurs propres semences. Quelles que soient les raisons invoquées, cela montre jusqu'à quel point, tout en ayant besoin de la nature, l'homme peut intervenir sur sa loi, dans le but par ailleurs louable de satisfaire des besoins nutritionnels dans ce cas. Un conflit apparaît. Comment ne pas s'émouvoir de la détresse de ces poissons, dont la disparition est programmée par l'usage que nous faisons de produits chimiques destinés à favoriser notre liberté? Est-il possible de sortir de ce dilemme pour une plus grande liberté, pour un meilleur vivre ensemble, pour une vie bonne? Car le conflit est net. D'une part, la nature nous est vitale. D'autre part, elle semble imposer une loi qui, à nos yeux, semble limiter notre liberté. D'un côté, nous vivons dans, à partir de et par la nature. D'un autre côté, notre propre nature, ce que nous sommes, nous offre la capacité de nous affranchir des déterminismes qu'elle nous impose. Comment faire pour que cet affranchissement ne nous conduise pas à une forme de servitude infiniment plus dramatique que celle dont nous pensons nous être délivrés? Le moment où s'entrechoquent l'homme et sa nature, c'est le moment où l'homme, conformément à sa nature, s'éprouve capable de transformer celle-ci. L'expérience écologique montre que la nature globale et chaque nature particulière ont une destinée commune, ou survivre ensemble ou disparaître ensemble. Cette si destinée commune il y a, cela pose la question du sens. D'où une prise de conscience globale que nature implique dynamisme. D'où vient ce dynamisme? Vers quoi oriente-t-il? Si chaque nature ou espèce est nécessaire à la nature, qu'en est-il des individus qui composent chaque nature? Ici apparaît une autre réalité que l'on peut appeler responsabilité naturelle. Il semble qu'elle s'exerce dès qu'il y a du vivant, au moins du vivant animal. Ce qu'on appelle sélection naturelle indique dans le règne animal un rapport entre les individus d'une même espèce et aussi entre les espèces. Ce rapport, la loi du plus fort par exemple, est intérieur à la vie de l'espèce. Mais la loi du plus fort n'est pas première. Ce qui est premier, c'est l'attention au très faible, attitude constitutive de la propagation de l'espèce. D'où vient cela? On ne pourra jamais prouver que dès sa naissance, le petit lapin se sache destiné à la mort, ni que Madame Lapine en ait conscience. Papa Lapin non plus. Reste que Madame Lapine, dans la mesure où ses multiples activités le lui permettent, prend soin autant que possible de ses tout petits rejetons. Ainsi, l'attention aux plus faibles, notamment aux rejetons tout petits, est constitutive de la survie de l'espèce. Un groupe d'individus de quelque espèce animale qu'il soit est condamné, ou destiné, comme vous le voulez, à se renouveler pour survivre. On peut donc inférer de cela que toute atteinte à l'attention aux faibles signe la fin de l'espèce. Dans ce domaine, l'homme ne fait pas exception. Et le voilà cependant, en raison même de sa nature, devenu capable de toute forme d'exception. Le voilà maître de sa survie maître de sa destruction totale, maître de sa reproduction, maître de son identité psychique, maître donc de son changement. Lorsque le changement est érigé en absolu, lui qui est en son essence même un concept relatif, lorsqu'on en fait un idéal porteur de bonheur, pour ne pas dire synonyme de bonheur, alors se produit une dissociation meurtrière. Il est difficile de limiter l'emprise du changement, son champ d'application. Si changement est synonyme de bonheur, alors tout ce qui échappe au changement est cause de malheur. Poussée au bout, cette position est intenable. En effet, le changement devenu un absolu ne change pas en tant que changement. Il échappe donc à lui-même. Il est malheur. Ainsi sommes-nous, une fois encore, reconduits à rechercher l'origine du changement et son terme. Décidément, rien ne permet à l'acte de penser de se passer d'une donnée stable qui lui préexiste et qui, en quelque manière, lui survivra. Décidément encore, est vraiment tronquée la fulgurance cartésienne qui affirme que toute la substance de l'homme n'est que de pensée. Tronquée, d'autant plus l'est-elle si, par un artifice historique avéré, l'acte de pensée propre à la raison est réduit à la raison technique. Tronquée est contradictoire, car de fait, l'acte technique s'exerce toujours sur une réalité qui lui préexiste. La nature revient par la grande porte, sa loi aussi. Je voudrais maintenant, dans un second point, demander au Concile Vatican II quel usage il fait des concepts de loi naturelle et, si nous avons le temps, de droit naturel. Ce qui est très frappant, c'est que autant les textes préparatoires au Concile Vatican II faisaient un usage quasi incantatoire de nature, de surnaturel aussi, de loi naturelle, de droit naturel, et que les textes finaux du Concile Vatican II sont extrêmement parcimonieux avec ces thèmes. Commençons donc par loi naturelle. Je ne connais pas d'étude complète sur l'évolution intraconciliaire de cette compréhension. Cependant, facile de constater que le concept de loi naturelle n'est jamais présenté pour lui-même dans les textes, alors qu'il remplissait une fonction considérable dans les textes précédents. Sauf erreur de ma part, on trouve l'expression « loi naturelle » en deux occurrences seulement, et encore jamais seule. Première occurrence se trouve dans la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, au numéro 74, qui traite de la nature et de la finalité de la communauté politique. Et nous avons ce passage. Quand l'autorité publique, outrepassant sa compétence, opprime les citoyens, et que ceux-ci ne refusent pas, ce qui est objectivement requis par le bien commun, mais qu'il leur soit permis de défendre leurs droits et ceux de leurs concitoyens contre les abus de cette autorité, étant sauve les limites que tracent la loi naturelle et la loi évangélique. D'où vient ce rapprochement entre loi naturelle et loi évangélique dans le cerveau conciliaire en pleine ébullition? Il vient d'une compréhension typiquement catholique du gouvernement du monde par Dieu. Si Dieu existe, il gouverne le monde, il n'est pas possible que cela ne soit pas. Mais comment le fait-il? Il le fait par sa loi, qu'on appelle la loi divine. Cette loi divine a deux caractéristiques. D'une part, elle est éternelle, en tant qu'elle est de Dieu, qui est éternel. Comme telle, elle est aussi invisible que Dieu lui-même. D'autre part, elle est positive, en tant qu'elle se fait connaître aux créatures, notamment à l'homme. Comment se fait-elle connaître? Selon deux voies, liées entre elles et cependant distinctes. Ces deux voies sont celles de l'action divine dans le monde, telle qu'elle est reconnue par par la foi à l'action créatrice correspond la loi naturelle, à l'action rédemptrice correspond la loi pour les chrétiens évangéliques. Ces deux lois, ou projets, ou chemins, sont reconnaissables par la personne humaine, et toutes les deux permettent à celle-ci d'établir une relation avec le Créateur, une relation de dialogue, qui ne peut se développer qu'en tant qu'elle est expression réciproque de deux libertés, celle de Dieu qui crée librement et non pas nécessairement, comme voudrait le faire croire Hegel en particulier, celle de la personne humaine, qui, capable de reconnaissance raisonnable d'une présence, peut ainsi engager sa liberté, encore bien esclave, en quête de sa finalité réelle. Le cadre général de Gaudium et Spes, sur lequel nous reviendrons, guérit la réflexion théologique catholique de faux parallélismes qui sont en grande partie cause de durcissements ecclésiastiques et d'incompréhension dans le dialogue. La deuxième occurrence de loi naturelle se trouve dans le numéro 89 de Gaudium et Spes, intitulé « Présence active de l'Église dans la communauté internationale ». Et nous trouvons ce passage. Lorsque l'Église, sur la base de sa mission divine, prêche l'Évangile à tous les hommes et leur ouvre largement les trésors de la grâce, elle contribue partout sur la terre à affermir la paix et à poser le fondement solide d'une communauté fraternelle entre les hommes et les peuples, la connaissance de la loi divine et naturelle. La connaissance de la loi divine et naturelle. Remarquons ici qu'il ne s'agit pas de deux lois, d'un côté la divine et de l'autre la naturelle. Il s'agit d'une seule loi qui est divine parce qu'elle est naturelle et qui est naturelle parce qu'elle est divine du fait que l'acte créateur a une particularité qui est de constituer la créature raisonnable dans une telle situation qu'elle demeure dans l'existence alors même qu'elle décide de se couper de sa source. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu néantisation de Chatan et néantisation de Ève et d'Adam? Il faut encore nous interroger sur le type de connaissance dont il s'agit ici. Sur ce point, je m'en tiens à une suggestion. Il importe de distinguer reconnaître de connaître. Dans Genèse 2:23, Adam commence par reconnaître Ève avant de la connaître. Et il la reconnaît en recevant d'un autre le nom qu'elle porte, contrairement à son attitude vis-à-vis de toutes les autres magnifiques manifestations de la munificence divine dans la création. Dans l'acte de reconnaissance, il y a certes la raison, mais celle-ci n'est jamais seule, tellement elle est liée à la perception, et donc à la sensation, et donc aux émotions. La reconnaissance implique dans le même temps une sortie de soi et un retour sur soi, les deux coordonnés par la volonté qui perçoit comme un bien la part de vrai détectée par la raison. Telle est de fait la reconnaissance de la loi divine et naturelle qui ouvre à la possibilité d'entrer en dialogue avec un autre dont la présence est plus intime à moi que moi. La connaissance de la loi divine et naturelle est entravée en l'homme par la réalité de la division qu'il porte en lui, chantée magnifiquement, comme vous le savez tous et toutes, par Eddie Mitchell. J'ai commis le mal que je ne voulais pas, je n'ai pas fait le bien que je souhaitais, 50 ans de chansons derrière moi, trop tard pour appuyer sur replay. Voilà. Cette division a besoin d'une altérité bienveillante offerte à la personne de l'homme pour qu'il puisse s'en laisser libérer par un consentement volontaire de sa liberté. C'est les deux emplois que l'on trouve dans de loi naturelle dans tout le Concile Vatican II. Il y a un troisième qui est fort intéressant, mais qui n'emploie pas le concept de loi naturelle, qui est loi divine, éternelle, objective et universelle, que l'on trouve dans la Déclaration sur la liberté civile et morale de la conscience humaine en matière religieuse. Dignitatis humanae, c'est au numéro 3. Et là, carrément, je passe ce qui est avant, parce, conformément à leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire parce qu'ils sont doués de raison et de volonté libre, sont donc dotés de responsabilité personnelle. Ils sont poussés par leur nature et tenus par obligation. Ne craignons pas le mot obligation, distinguons-le de contrainte. Obligation, ligare, le lien, ce qui découle du lien. C'est pour ça que l'amour oblige, mais ne contraint pas. La vérité oblige, mais ne contraint pas. Ils sont tenus par obligation morale, c'est-à-dire qui découle sur un agir, à chercher la vérité, celle avant tout qui concerne la religion. Cela se manifeste encore plus clairement si l'on considère que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les chemins de la communauté humaine. Alors il est très intéressant d'aller voir les notes qui sont données à ce texte et qui renvoient à Thomas d'Aquin, qui est un professeur de théologie du XIIIe siècle et dont le cardinal Ratzinger a dit un jour que le grand malheur pour le catholicisme latin était de n'avoir eu que saint Thomas d'Aquin pour père, alors qu'il aurait fallu tenir ensemble Thomas d'Aquin et Bonaventure, en raison du fait que, pour Thomas d'Aquin, mutatis mutandis et en le protégeant de son fort interne, l'histoire apparaît quand même un peu comme un accident de lettres. Dans la Somme théologique, prima secundae, question 91, article 1, on a vu, dit-il, que la loi n'est pas autre chose qu'une prescription de la raison pratique chez le chef qui gouverne une communauté parfaite. Alors ne vous laissez pas troubler par le mot parfait. On dit qu'une communauté ou une société est parfaite dans la mesure où elle possède en elle-même ses propres principes. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'Église comme société parfaite, au sens où Jésus en fait partie. Voilà. Si on prend la chose à l'aune eschatologique, pardon mon père, de l'univers infini, alors on se dit que quand on parle de l'Église comme société parfaite, il faut y intégrer les bienheureux, les saints, les purgés, les tout ça, voilà. Et donc faire une enquête d'opinion dans l'Église devient très difficile, il faudrait faire voter les bienheureux. Ça veut dire que s'il y existe un primat du sujet singulier sur la dimension sociale, en fait, il n'existe aucune société politique parfaite. Et si elle se prend comme parfaite, elle sera obligée, comme dans nous autres de Eugène Zimiatine, de trouver l'opération finale qui supprimera du cerveau humain le fonctionnement de sa mémoire. C'est assez intéressant d'ailleurs sur ce plan de regarder comment l'histoire est enseignée. Thomas d'Aquin continue. Il est évident par ailleurs, et voici la parenthèse fatale dont nous devrions être vraiment conscients, étant admis que le monde est régi par la providence divine, il est évident par ailleurs, si l'on admet cela, que toute la communauté de l'univers est gouvernée par la raison divine. Et ce n'est que si l'on admet cela que l'on peut voir la loi naturelle au fond. Or, la problématique actuelle est justement qu'on n'admet pas, ou on admet d'une manière catholiquement rétrécie au lavage, étouffante, en sorte que les problématiques questionnantes qui sont à l'intérieur même de l'acte de foi sont vécues de manière assez spontanée dans de très nombreux milieux comme déjà un manque de foi. Ceci est purement et simplement dramatique pour la vie de l'Église et pour sa mission. Alors ce n'est que dans cette mesure, étant admis que, mais vous voyez, Le monde est régi par la providence divine. Qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce que la providence ? Et qui est Dieu ? Bon, je arrête parce que là, je sens un petit battement de cœur, c'est pas bon. Il faudrait lire aussi dans la Prima Secundae, question 93, articles 1 et 2, où il montre que la sagesse divine, lorsqu'elle est reconnue, a une double raison, c'est-à-dire a deux composantes, si vous voulez. Une raison d'art, de modèle exemplaire. Et puis elle a aussi une raison de finalité, de mouvement. Et c'est très drôle, mais c'est à cause de cette raison, de cette dimension de mise en mouvement, de dynamisme, que saint Thomas d'Aquin dit que proprement la sagesse divine a raison de loi. Ce qui signifie que la conception de Vatican II concernant la loi divine, c'est un dynamisme. Or, nous avons spontanément dans l'esprit que la loi est fait partie de ce qui permet le contrôle. Or, ce dynamisme, dans le contexte chrétien, est un dynamisme qui nous conduit vers celui qui vient, dont nous ne connaissons pas grand-chose. Il ne nous appartient pas de savoir les temps et les moments. Et par conséquent, la loi, au sens proprement du Concile Vatican II, la loi naturelle, qui est expression de cette loi divine objective, objective qui ne se reconnaît que dans une subjectivité qui peut affirmer de manière raisonnable qu'elle a reconnu pour croire. La loi est un dynamisme qui porte plus d'obscurité que de lumière. Alors, il faudrait passer, je passe beaucoup. Il y a une chose aussi sur le droit naturel. Il y a deux occurrences du droit naturel dans le Concile, mais décret sur les moyens de communication sociale au numéro 14, et puis en Gaudium et Spes 79 sur la question comment réfréner l'inhumanité des guerres. Mais je voudrais venir maintenant très rapidement. On peut vraiment se poser la question, pourquoi cette rareté de l'expression « loi naturelle », et vous voyez, jamais employée seule, dans l'ensemble du magistère. Alors, remarquons de manière très simple que les deux emplois de « loi naturelle » et celui aussi de « droit naturel » se trouvent dans la seconde partie de « Gaudium et Spes » qui dépend de la première. Et celle-ci n'a jamais cru bon de se référer explicitement à cette notion, alors qu'elle déploie l'architecture de l'anthropologie à partir de laquelle doivent s'entreprendre et se développer le dialogue de l'homme avec sa destinée et le dialogue de l'Église avec le monde. Il apparaît donc clairement que la compréhension conciliaire de la loi naturelle doit être cherchée ailleurs que dans une référence à son histoire et à ses acquisitions théologiques précédentes, que ce soit en théologie de la création, de la providence ou en théologie morale. Voilà pourquoi, dans ce troisième point, qui aurait suffi largement à nous occuper, je voudrais vous rappeler quelques-uns des éléments diagnostiques qu'a porté le Concile Vatican II sur le monde de ce temps. Alors, je vais laisser pas mal de choses, et peut-être que les espèces d'élucubrations dont vous avez vraiment dû vous demander qu'est-ce qu'elles venaient faire dans une conférence de clôture d'un colloque universitaire du début vont s'éclairer quand vous allez entendre ces petits bouts de texte. Voilà par exemple, notre époque est caractérisée par des changements profonds, provoqués par l'homme, par son intelligence et son activité créatrice. Ils réagissent sur l'homme lui-même, ses jugements, ses désirs, individuel et collectif, sur ses manières de penser et d'agir, tant à l'égard des choses qu'à l'égard de ses semblables. C'est une véritable métamorphose sociale et culturelle. S'efforçant de pénétrer plus avant les ressorts les plus secrets de son être, l'homme apparaît souvent plus incertain de lui-même. Il découvre les lois de la vie sociale, mais il hésite sur les orientations à lui imprimer. Il expérimente un sens très vif de la liberté et en même temps surgissent de nouvelles formes d'asservissement social et psychique. Il y a une dépendance réciproque de tous dans une nécessaire solidarité, et on constate que l'homme concrètement se trouve violemment écartelé. L'échange des idées s'accroît, mais les mots qui servent à exprimer des concepts de grande importance revêtent des acceptions notoirement différentes, suivant les diversités des idéologies. Une inquiétude saisit l'homme, et ce mélange, un mélange d'espoir et d'angoisse. Qu'est-ce que c'est que l'évolution de ce monde ? L'esprit scientifique et technique a modifié le rapport à l'espace. Il a modifié le rapport au temps. Le mouvement de l'histoire devient même si rapide que l'on passe d'une notion statique à une notion dynamique, une conception dynamique et évolutive, non pas des choses, mais de l'ordre des choses. Autrement dit, si l'ordre des choses évolue sans cesse, pourquoi chercher du permanent ? Pourquoi la sortie du syndrome Eddie Mitchellien ne serait-elle pas purement et simplement dans la perte de la mémoire du passé et la fuite en avant ? Il y a des changements dans l'ordre social, il y a des changements très profonds des aspirations qui se lèvent, les peuples de la faim interpellent les peuples de l'opulence. Et puis voilà, le monde se sent puissant, faible, capable du meilleur, du pire. Le chemin mène à la liberté ou à la servitude, au progrès ou à la régression, à la fraternité ou à la haine. Et puis finalement, c'est en l'homme lui-même que de nombreux éléments se combattent entre eux. En tant que créature, il expérimente ses limitations. Au nom de sa nature, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Il est forcé d'opérer des choix, et puis, faible, pécheur, il n'est pas rare qu'il fasse ce qu'il ne veut pas, et ne fasse pas ce qu'il voudrait faire. Par conséquent, il souffre en lui-même. Division de laquelle naissent au sein de la société tant et de si grandes discordes. Il souffre en lui-même. Ainsi, la question de la souffrance de l'homme s'invite dans un colloque sur la loi naturelle. Alors je passe et je voudrais en conclusion vous proposer quatre points qui paraissent vraiment fondamentaux. Voilà, le premier, c'est la question de l'unité de la personne. Corpore et anima unus. L'homme un en corps et en âme. Vous savez peut-être que, selon Michel Foucault, le corps est un espace ouvert par l'intermédiaire duquel la vie privée des individus est sujette à la régulation de l'État. Vous savez peut-être qu'il parle d'un pouvoir administratif et d'un biopouvoir comme forme à travers lesquelles la vie privée de l'homme est violée et son activité contrôlée. Et donc la question, le corps n'est pas une donnée naturelle, mais un élément qui peut être recréé et intégré dans le projet personnel. Alors si c'est la société qui s'en occupe, quid de la liberté ? Alors il faut retrouver le sens profond de « corpore et anima unus » que la traduction française de Gaudium et Spes, très perverse, a traduit « corps et âme, mais vraiment un ». Mettant ainsi une opposition très étonnante entre le corps et l'âme. L'autre élément, c'est la question de l'être et de l'histoire. Et de ce point de vue-là, il faudrait relire les analyses de Hans Jonas. Il est clair que pour nous, dans notre expérience concrète, il n'y a pas d'être en dehors de l'histoire. Mais cela pose la question du rapport entre le temps et l'éternité. Et de ce point de vue, il faut juste entendre ce petit passage de Gaudium et Spes. Dieu est le même, il est unique. Il est créateur et sauveur, seigneur de l'histoire humaine et de l'histoire du salut. Et donc, cet ordre divin, cette organisation, assume et exalte la juste autonomie de la créature et particulièrement de l'homme. Car c'est en effet une question d'autonomie qui est au cœur de tout ça. Et de même qu'on a besoin de l'accélération de la pesanteur pour fonder notre liberté de mouvement, de même la dépendance la plus radicale possible et la proximité la plus radicale possible du Créateur fondent authentiquement non seulement notre acte libre, mais notre capacité de libération. C'est ce que dit Gaudium et Spes 36 avec la phrase terrible. Par l'oubli du Créateur, la créature s'auto-obscurcit. Et puis, il y a la question de la culture. Un trait constitutif de la personne humaine, c'est qu'elle n'accède à la vraie et pleine humanité que par la culture, c'est-à-dire en cultivant les biens et les valeurs de la nature. Avec l'affirmation qui va avec, partout où il est question de vie humaine, nature et culture sont liées de façon aussi étroite que possible. A implique B en mathématiques, non B implique non A. Partout où nature et culture ne sont plus liées, il n'est pas question de vie humaine. Donc il est question de mort humaine. Je voudrais terminer cette fois en posant la question et si Dieu était non pas l'ennemi de l'homme, mais son meilleur ami, son ami fidèle. Et pour cheminer dans cette direction, il me semble que nous avons plusieurs éléments à retrouver. J'en ai noté trois. Premièrement, revenir à l'apophase. Quelqu'un a parlé de la modestie hier. Et enfin, les chrétiens, les musulmans et les juifs, nous avons en commun que Dieu est le seul qu'on ne peut nommer, ou qu'il a 99 noms plus un, ou que son nom est imprononçable. Et que donc, il ne s'agit jamais de démontrer, mais de montrer, d'indiquer. C'est pas pareil du tout. Ne pas confondre, surtout nous les catholiques, la proposition d'une doctrine avec la proclamation d'une relation vivante qu'on appelle le salut. Ne pas aller au contact avec nos doctrines. Qu'elles nous servent de point d'appui, tant mieux, mais elles n'auront pas beaucoup de place dans la vision béatifique, dans la vision de Dieu. Deuxième élément, la corporéité de Jésus, révélation de Dieu. Quand on dit que Jésus nous révèle le Dieu Trinité, ce n'est pas malgré le fait qu'il a pris chair, c'est dans le fait qu'il a pris chair. Le relationnel de Jésus révèle le relationnel auquel nous sommes appelés, comme capables, dans l'ombre du miséricordieux, de manifester que si l'homme est capable de relation, comment Dieu ne le serait-il pas? Je note ensuite, en terminant, trois urgences proprement chrétiennes. C'est une question qui concerne tous les baptisés. Et le clergé ecclésiastique ou les supérieurs majeurs n'ont pas à affirmer la doctrine avant d'en avoir saisi la fragilité et les questions. La sécularité, le caractère propre des baptisés, c'est le caractère séculier. Où en sommes-nous de notre connaissance de ce monde, des fonctionnements qu'il habite? Sommes-nous suffisamment croyants pour nous laisser interpeller au nom même de notre foi? Puis finalement, la consécration. Ce monde qui s'en va, il s'en va, c'est la foi des chrétiens, à travers un médiateur qui a senti l'abandon de Dieu et qui, à ce titre, s'est abandonné à Dieu au nom du monde qui le cherche. Je vous remercie.